Ce matin, j'ai un message pour vous, un message d'espoir. Alors, je l'ai intitulé « Hope ». Forcément, il y en a qui n'aiment pas trop les anglicismes, mais vous savez, si je dis « espoir », c'est pas très joli comme titre. Alors, on aime mieux mettre des mots anglais maintenant. J'espère que vous m'en voudrez pas. Si vous prenez le CD que c'est écrit « Hope » et que vous donnez à une grand-maman, vous lui direz que ça veut dire « espoir » ou « espérance ». Alors, qu'est-ce que c'est l'espoir ? Qu'est-ce que c'est l'espoir selon le Larousse ? C'est le fait d'espérer, d'attendre avec confiance la réalisation de quelque chose. Voilà, c'est espérer, attendre avec confiance la réalisation de quelque chose. Alors peut-être que certains espèrent enfin digérer leur repas de Noël. Vous attendez vraiment avec impatience, là, mais avec confiance, vous espérez que vous allez réussir à digérer. C'est un peu mon cas d'ailleurs. Peut-être que d'autres espèrent ce matin vraiment vivement que je serai court, parce que vous avez vos enfants. Attendez avec confiance et vous verrez. Vous connaissez tous ce dicton qui dit « l'espoir fait vivre ». C'est vrai, hein ? Peut-être vous le dites des fois, mais quand on le dit, ce n'est pas toujours à bon escient. Des fois, quelqu'un nous raconte quelque chose, puis on lui dit « ouais, ouais, l'espoir fait vivre, hein ? Rêve toujours, mon gars !» Mais là, il y a une réalité, ce n'est pas tout à fait ça. Mais pourtant, je pense que c'est vrai. Espérer, ça nous fait avancer. Ça nous donne du courage, ça nous donne de la joie. Alors peut-être ce matin vous êtes là puis vous espérez quelque chose. Peut-être vous espérez un changement professionnel. Peut-être que vous espérez obtenir un prix parce que vous êtes artiste ou vous faites de la musique ou peu importe, vous êtes architecte. Peut-être que certains ou certaines attendent un mari. Bon, réfléchissez bien avant de vous engager. Peut-être que certains, certaines aimeraient un enfant, vous espérez un enfant. Peut-être que d'autres, c'est beaucoup plus concret, vous espérez déménager. Voilà, vous en avez marre de ce petit deux pièces, puis vous voulez quelque chose de plus grand. Bon, ces perspectives, ça nous aide à garder espoir, ça nous aide, parce qu'on voilà, on se projette. On dit, ah, il y a une étape suivante, j'avance, et puis je me réjouis de ce qui vient. Mais si d'une manière ou d'une autre, tout ça n'arrive pas, si tout ça ne se produit pas, si vous n'arrivez jamais à trouver le bon appartement, si vous n'arrivez jamais à trouver le bon mari ou la bonne épouse, si malheureusement un enfant ne vient pas, qu'est-ce qu'on fait ? Que se passe-t-il ? Que reste-t-il ? Si on met notre espoir seulement dans ces choses-là, alors on va perdre le goût de vivre. Et vous savez, bien que la période de fin d'année soit très réjouissante pour la plupart des gens, il y a aussi, malheureusement, beaucoup de gens qui mettent fin à leur jour dans cette période-là. C'est la période où il y a le plus de suicides. Parce que des personnes se retrouvent sans espoir. Elles n'ont tellement pas d'espoir qu'elles ont juste envie d'en finir. C'est comme si elles sont devant un mur. Elles ne voient rien d'autre. Il n'y a plus de solution, plus d'espoir. C'est terrible. Alors oui, l'espoir fait vivre, c'est vrai. Mais pas n'importe quel espoir. C'est ça qu'on va regarder ce matin. C'est la différence peut-être entre un chrétien et un non-chrétien. Parce que l'espérance du chrétien, elle transcende notre réalité. Même si j'ai tout perdu ici, même si j'ai tout ce que j'ai cité avant n'arrive pas, j'ai encore de l'espérance. Waouh ! On peut tout perdre ici, mais notre espérance est ailleurs. Notre espérance, c'est une vie éternelle. C'est une vie éternelle après la mort terrestre. Ça, vous le savez, la plupart, en tout cas. On aura une vie avec Christ, une vie dans la gloire, une vie dans le royaume de Dieu. Une vie dans ce royaume où il y aura un amour parfait. Waouh ! Une paix parfaite. Il n'y aura plus la boule au ventre, l'angoisse, plus de souffrance, plus de pleurs, plus de cris. Ça, c'est l'espérance qui nous est promise. On sait aussi que Jésus revient. Alors, soit il revient, soit c'est nous qui allons vers lui, mais c'est la même espérance. Alors, j'aimerais m'adresser ce matin particulièrement à celles et ceux qui luttent avec ces pensées noires, avec la dépression, avec l'angoisse. J'aimerais m'adresser aussi envers tous ceux qui sont peut-être crevés. Là, vous en avez marre. Vous avez envie de tout lâcher. J'aimerais vous dire ce message d'espérance, ce ne sera pas toujours comme ça. Ce ne sera pas toujours comme ça. Il y a de l'espoir, il y a autre chose, il y a une autre perspective. Est-ce que ce n'est pas ça que Jésus est venu dire à Noël, justement ? On vient de fêter Noël. Ce n'est pas ça que Jésus est venu dire. Il est venu donner de l'espoir à ceux qui ne croyaient plus. Il est venu dire, mais ta situation, elle ne sera pas toujours comme ça, mon gars. Je sais que c'est dur, je sais. Mais ce ne sera pas toujours comme ça. Amen. Amen. Dites à votre voisin, ce ne sera pas toujours comme ça. Ce ne sera pas toujours comme ça. Imaginez le contexte de la naissance de Jésus, un contexte spirituel et politique vraiment très difficile. Et puis Jésus vient comme cette espérance. Des gens qui attendaient, des juifs qui attendaient un signe. Ils attendaient quelque chose, pas tous. Et certains devaient se dire, mais c'est plus possible. On est au bout là, ça va pas. Il y a des Romains partout, on est en train de perdre l'héritage reçu. Qu'est-ce qu'on va faire? Puis la naissance de Jésus était ce premier signe qu'un changement allait venir. C'était le premier signe d'espérance. Puis après, ces nombreux miracles, ces enseignements, Jésus a démontré qu'il y avait effectivement autre chose. Il n'y avait pas juste notre réalité là. Jésus a fait des miracles, a changé des situations. C'est la preuve qu'il y a autre chose. Waouh, c'est possible ça? C'est incroyable. Ben oui, mais il fallait croire. Jésus a démontré qu'il y avait autre chose. Mais c'était juste un avant-goût du royaume de Dieu. Puis c'est comme s'il criait, mais regardez les amis, regardez, ohé, mettez votre foi en moi, gardez l'espoir. Je suis là, je suis venu vous délivrer. Et par sa mort et sa résurrection, ce qui doit venir, ce qui devait venir, est disponible pour celui qui a cru. Pour celui qui aujourd'hui, celui qui accepte l'œuvre de Jésus pour sa propre vie, cette autre chose, cette espérance, elle est disponible. Jésus a dit sur la croix, tout est accompli. Et c'est ça qui nous permet d'espérer, 27 décembre 2015, et d'espérer en toutes circonstances. Alors on va voir ce matin que le salut, c'est notre source d'espérance. On va voir que l'amour est aussi notre source d'espérance. Mais avant, j'avais prévu de me changer devant vous. Voilà un magnifique t-shirt. Voilà, hope that does not fail. Qu'est-ce que ça veut dire? Pardon? L'espoir ne faillit jamais. Voilà, ça c'est un t-shirt qu'on a utilisé en été 2012, alors qu'on était avec une équipe d'évangélisation au Luxembourg. On n'avait pas beaucoup de matériel, on n'avait pas tellement d'autorisation pour parler de Jésus, mais on se promenait tous avec ce t-shirt. Et en fait, c'est juste ce mot « hope », espoir, qui interpellait les gens. Parce que des fois, on leur disait, mais vous savez, c'est quoi votre espoir? C'est quoi votre espérance dans la vie? Puis malheureusement, force est constater que les gens n'ont pas beaucoup d'espoir, ou n'ont plus d'espoir. Donc c'était juste le tremplin pour leur parler d'un espoir qui ne faillit jamais, un espoir qui ne déçoit jamais. Souvent, on met beaucoup d'attentes dans nos relations, on met beaucoup d'attentes sur les hommes, on n'aimerait jamais être déçu, et puis on finit toujours par être déçu. Mais avec Jésus, tu ne seras pas déçu. Il y a vraiment un espoir qui ne faillira pas. Il ne va pas te laisser tomber. Souvent, c'est comme ça. Hein, on a des super amis, et puis quand on est dans la M, il n'y a plus personne. Vous avez déjà vécu ça? Oui, en tout cas, il y a des... Non, là-bas, vous n'avez rien vécu, là-bas. Jésus, quand tu es dans la M, il est là aussi. Alléluia. Alors Jésus nous donne l'espérance du salut par son amour. Je peux espérer aujourd'hui, car je sais qu'il y a autre chose pour moi, après mes souffrances, et je sais qu'il m'aime. Alors on va prendre un texte dans Romains chapitre 8, un chapitre bien connu, mais un texte magnifique. L'apôtre Paul qui a écrit la lettre aux Romains, l'épître aux Romains, il a exposé que nous sommes tous pécheurs. Il a commencé par ça, il a dit « Ne vous prenez pas pour des héros, vous êtes des pécheurs comme tout le monde. » Et puis il a aussi dit que finalement il y avait toujours un tiraillement en nous, entre la chair et l'esprit. C'était des fois difficile, c'est possible de vaincre la chair. Et puis il a dit au début du chapitre 8, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça c'est une bonne nouvelle, amen. Puis après il a dit, mais ceux qui sont en Jésus-Christ, ils sont adoptés. Ceux qui sont en Jésus-Christ, vous devenez fils et filles de Dieu. Waouh! Donc Jésus, c'est pour ça qu'on dit qu'il est venu comme un frère. D'accord? Vous êtes fils et filles de Dieu. Bonne nouvelle. Et puis, au verset 17, il dit, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois, nous souffrons avec lui, afin de prendre aussi part à sa gloire. Bon, alors forcément, les enfants, il y a un héritage. Bon, moi je crois que je ne vais pas hériter grand-chose, mes parents, enfin voilà, ils sont super. Disons qu'on n'a pas un quartier à Genève à nous. Mais oui, quand on est enfant, il y a un héritage. On est héritier de la promesse. Et puis, il y a cette petite phrase, « Si toutefois nous souffrons avec lui, afin de prendre aussi part à sa gloire. » Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est enfant de Dieu, mais on a des souffrances. Et puis ces souffrances-là, on va les vivre avec Jésus et pour Jésus. Et puis on va espérer, on va passer au travers de ces souffrances-là. Et puis elles font partie de... Finalement, elles augmentent notre gloire au ciel. D'accord? Et ensuite, il va dire quelque chose d'intéressant, on va lire tout le texte depuis le verset 18 jusqu'au verset 39. Écoutez bien. « J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. » Alléluia. De fait, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. En effet, la création a été soumise à l'inconsistance, non de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Toutefois, elle a l'espérance d'être elle aussi libérée de l'esclavage, de la corruption, pour prendre part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Donc la création, c'est tout ce qui nous entoure, d'accord? Or, verset 22, nous savons que jusqu'à maintenant, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'accouchement. Et ce n'est pas elle seule qui soupire, écoutez bien, mais nous aussi, qui avons pourtant dans l'esprit un avant-goût de cet avenir, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la libération de notre corps. En effet, c'est en espérance que nous avons été sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus de l'espérance. Ce que l'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Et Dieu examine les cœurs, sait quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est en accord avec lui qu'il intercède en faveur des saints. Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi accordé la gloire. Que dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? C'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera? Mais Jésus-Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée? De fait, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Mais au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Verset 24, l'apôtre Paul dit, c'est en espérance que nous sommes sauvés. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que c'est là, mais c'est pas encore là. Pas cool, hein? Alors c'est comme si, imaginez, vous êtes dans un monde sans voiture, un Genève sans voiture, il y a juste des taxis, des transports publics, vous n'avez pas de voiture, vous devez tout faire à pied, et puis vous avez reçu une voiture. Vous avez reçu une voiture, elle est là, elle est dans le garage, tu ne l'as pas encore vue, elle est juste dans ton garage, tu sais qu'elle est belle. Tu sais qu'elle est belle, mais ce n'est pas encore maintenant que tu peux l'utiliser. Mais elle est à toi, cette voiture. Elle est payée, et c'est absolument certain, tu l'auras. Tu ne sais pas quand, tu espères. Tu espères juste que ça arrive vite, mais tu dois faire sans. Alors tu dois marcher, tes pieds te font mal, tu dois t'entasser dans les transports publics, ils sont retardés à cause de la grève, des gens sans voiture mécontents. Tu n'en peux plus, mais tu gardes espoir. Tu sais que cette voiture est dans ton garage. Un jour, j'aurai plus besoin d'aller à pied. C'est ça que Paul dit. C'est pas encore là. Et puis, on a commencé ce texte au verset 18, où il dit « Ce que tu vis maintenant, les souffrances du moment présent, elles n'ont rien à voir avec ce qui va venir. » Tu ne peux pas comparer ce que tu vis là. Il n'y a aucune comparaison entre tes souffrances du moment et la gloire que tu vas avoir. Est-ce que ce n'est pas encourageant? Tu souffres aujourd'hui, mais ça va s'arrêter à un moment donné. Et tu vivras dans la gloire. Tu as mal aux pieds, mais un jour tu rouleras dans une voiture splendide. Ça ressemblera à rien que tu aies connu. Alors bon, c'est juste une image, d'accord? D'ailleurs, je me suis souvenu en partant ce matin en voiture, il faisait un degré comme ça. À l'époque, j'avais un petit scooter. Puis je me souviens du jour où j'ai dit, vraiment, je dis, c'est la dernière fois. C'est la dernière fois. J'aspirais vraiment à une voiture, tellement il fait froid sur ces scooters, etc. C'est la dernière fois. J'espérais à cette voiture. Bon, elle a fini par arriver. Alléluia. Bon, Paul poursuit en disant que la création soupire. La création, elle attend le moment de la rédemption. Donc la création, c'est ce qui nous entoure. On ne voit pas, mais en fait, la création, elle souffre. Vous voyez, il y a le réchauffement climatique. C'est peut-être une preuve que la création souffre. Parce qu'au moment de la chute de l'homme, la création a aussi finalement eu la conséquence de la chute. Et quand il y aura le rétablissement de l'homme, alors la création redeviendra aussi parfaite. D'accord ? Elle soupire. Mais ce qui est important, c'est la suite. Nous aussi, qui avons pourtant l'esprit, on soupire aussi. Ça, c'est intéressant, parce qu'on a un avant-goût avec le Saint-Esprit. On voit un petit peu qu'est-ce qui nous attend, mais on soupire quand même. Et le terme « soupirer », c'est vraiment quelque chose qui est... Voilà, c'est des paroles qu'on prononce quand on est confronté à une situation épouvantable, où on ne voit aucune possibilité sur le coup. D'accord ? Il n'y a aucune possibilité. C'est ces soupirs-là qui sont intérieurs. Vous soupirez des fois ? Pourtant, on est censé manifester le fruit de l'esprit. L'esprit, c'est quoi ? C'est la patience, c'est la joie, l'amabilité, la bienveillance, etc. Mais c'est quand même écrit que malgré qu'on a l'esprit, parfois on soupire. D'accord ? Donc ceux qui soupiraient des fois, vous êtes normaux. Ok ? Vous n'êtes pas des mauvais chrétiens à dire « Ah, mais c'est pas possible !» Non ! On soupire aussi. Cependant, l'espérance du salut devrait être une force dans notre vie. Quel que soit le désert qu'on peut traverser, que tu traverses, souviens-toi de ce salut qui t'est promis, de cet héritage que Dieu a en réserve pour toi, qui n'a aucune comparaison avec ce que tu connais. Cette espérance, c'est le cadeau de Dieu pour toi. C'est le cadeau de Jésus. Peut-être que tu as été un peu déçu, tu avais espéré mieux pour ton Noël. Peut-être que tu avais voulu un meilleur cadeau. Moi, j'ai reçu une brosse à dents électrique de mon frère. Ce n'est pas que j'espérais mieux. Mais Dieu nous donne une espérance vivante. Jésus. Le commentateur, un pasteur, John MacArthur, a écrit ceci. « En tant que disciples de Christ, nos souffrances proviennent des hommes, tandis que notre gloire provient de Dieu. Nos souffrances sont terrestres, tandis que notre gloire, elle est céleste. Nos souffrances sont de courte durée, tandis que notre gloire est éternelle. Nos souffrances sont peu de choses, tandis que notre gloire est infinie. Nos souffrances se vivent dans notre corps mortel et corruptible, tandis que notre gloire se vivra dans un corps parfait et incorruptible. » Vous voyez, il n'y a pas de comparaison, mais persévère, persévère dans tes souffrances, ça en vaut la peine. Paul exhorte donc au verset 25, justement, il dit « il faut persévérer ». Il dit ainsi « si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance ». Persévérance, c'est quoi ? C'est l'endurance, c'est une endurance ferme, c'est demeurer aussi sous pression. Vous savez, des fois, quand on a une espérance, puis que les autres n'ont pas, il y a une pression qui se crée. Tout le monde autour de vous n'a pas l'espérance, le cadeau que vous avez reçu. Alors, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'il y a une pression. Ils ne veulent pas que vous ayez cette espérance. Ils vous attirent, ils disent, mais non, il n'y a pas d'espérance. Mais si, il y a une espérance. Mais non, mais si, mais non. Et puis, on peut sombrer dans la dépression. Et puis, on a des angoisses. Ben oui, il n'y a pas d'espérance. Mais non, vous voyez, c'est tout ce qui nous entoure qui n'a pas d'espérance, qui commence à nous voler notre espérance. C'est pour ça que cette espérance, on ne doit pas la perdre. C'est pour ça que cette espérance, on doit s'y accrocher. Il n'y a rien qui doit nous prendre notre espérance. L'espérance de la vie éternelle, l'espérance du salut ça doit être ancré en vous. Vous devez être sûr que si vous avez confessé Jésus-Christ, vous êtes enfant de Dieu et vous avez ce salut. Je vois encore trop de gens qui en doutent. Dire « Mais j'ai péché. » Mais oui, mais il t'a pardonné. Tu es sauvé. Ça, c'est ton espérance. Alors va de l'avant. On cite souvent ce verset « Je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ça, c'est l'Éternel qui a dit ça au peuple qui était exilé, au peuple d'Israël, en Babylonie. Le peuple, il pense qu'il est foutu, il pense que c'est fini, plus d'espoir. Puis Dieu arrive, pourtant il était à l'initiative, hein. Il savait que c'était une conséquence de leurs actes, mais il ne les laisse pas tomber. C'est un espoir qui ne faillit jamais. Puis il vient leur dire, mais j'ai un plan. T'inquiète pas, j'ai un plan. J'ai pas oublié les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Quelles que soient tes circonstances, ce matin, Dieu n'a pas oublié les projets qu'il a formés sur toi. Peut-être que tu pleures, peut-être que tu traverses vraiment des moments, mais tu passes par un divorce, tu es toujours face à la dépression. Mais Jésus te dit, j'ai pas oublié les projets que j'ai formés sur toi. Il y a encore une espérance, il y a encore un avenir, et ça passe par Jésus. Est-ce que tu le crois ce matin? Deuxièmement, je serai plus court, l'amour c'est une source d'espérance. On découvre que l'espérance du salut est liée à l'amour de Dieu. Verset 35, « Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger? » Peut-être tout ça fait que vous avez l'impression d'être séparé de l'amour de Christ. Et puis, au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. Il n'y a rien qui peut vous séparer de l'amour de Dieu. Puis le verset 28 nous dit, « Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. » Mais je vois encore trop de gens qui minimisent finalement leur valeur devant Dieu. Lorsque tu es dans ces moments difficiles, tu as peut-être aussi perdu ton job, tu as l'impression de ne pas avoir d'avenir. N'oublie pas qu'il n'y a rien. Il n'y a rien qui peut se mettre entre toi et Dieu. Il n'y a rien. C'est pour ça que je dis qu'on peut tout perdre. Mais on a toujours cette espérance. On peut tout perdre, mais on est toujours aimé de Dieu. On est tout perdre, mais lui, il n'a pas fini. On peut tout perdre ici, mais il a toujours ce plan et cette espérance en Jésus-Christ. Donc, vu qu'il t'aime, tu peux être certain de ses projets. Tu peux être certain que c'est des projets de paix. Tu peux être certain qu'il sera avec toi dans la vallée de l'ombre de la mort. Tu ne craindras aucun mal, nous dit le psaume 23. La victoire est assurée parce que, par amour, il est allé à la croix. Il t'a choisi. Il t'a donné son propre fils. Est-ce que tu penses qu'il a laissé Jésus mourir, puis il va te laisser tomber? Non, pas du tout. Son amour est une source d'espérance à laquelle tu peux t'accrocher, vraiment. Bien, si tu traverses une épreuve, alors déclare. Mais je suis aimé de Dieu. Il n'y a rien qui peut se mettre entre moi et Dieu. Il n'y a rien qui peut me voler mon espérance. Dieu ne m'abandonnera pas. Amen. Dis-lui que tu l'aimes. Seigneur, je t'aime et je sais que... Alors tu vas me conduire. Je sais que tout bien concourt à celui qui t'aime. Je sais que même si je passe maintenant, là, dans ce moment difficile, il y a autre chose pour moi. Parce que tu m'aimes et parce que je t'aime. Il y a toujours une solution en Jésus. Et puis j'aimerais encore vous dire que Dieu n'est pas contre vous. Le texte le dit. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Mais c'est Dieu qui est avec vous. Arrêtez de penser que Dieu est contre vous, les amis. Trop de gens pensent que Dieu est contre eux. Non, Dieu, il veut vous tirer de là. Dieu, il veut vous aider. Dieu, il n'est pas là pour vous juger, pour vous condamner. On vient de dire, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il veut vous porter, vous aider à vous en sortir. Il vous donne une espérance. Si mon fils a fait une grosse bêtise, mais qu'il sait que je l'aime, il va oser toujours venir m'en parler à cause de cet amour. Je ne vais pas le rejeter, je ne vais pas l'envoyer balader comme ça, mais je vais l'aider. Je vais essayer de trouver une solution, bien sûr. Il devra assumer peut-être ses conséquences, mais il sait qu'il peut venir. Il sait que mon amour, quoi qu'il ait fait, ne changera pas. C'est l'histoire du fils prodigue. Hein ? Le père, il est resté plein d'amour pour son fils qui est revenu. C'est la même chose avec Dieu, un amour parfait qui ne change pas. Alors sais-tu ce matin que Dieu t'aime ? As-tu vraiment intégré ça ce matin ? Il t'aime. Est-ce que tu le crois ? Tu as peut-être tout perdu sur cette terre. Tu ne pourras pas perdre ton amour. Vraiment, ça entre en toi. Peut-être tu as l'impression d'être seul et puis que tu n'es pas aimé des autres autour de toi. Peu importe, Dieu t'aime. Peu importe, Dieu t'aime. Je vais terminer avec ça. Paul parle de tout ça, mais lui, il a vécu des choses terribles, il a vécu des souffrances. Évidemment, vous le savez. Et puis, il n'a jamais perdu son espérance. Et il écrit dans 2 Corinthiens 11, versets 23 à 38, « J'ai été souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verges. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur les mers, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. » Imaginez. Waouh. Puis, à Timothée, il va dire ceci. « À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé ?» Ah, c'est vrai, on se demande. 2 Timothée 3,11. « À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé ? À Antioche, à Icône, à Lystre ? Quelle persécution n'ai-je pas supportée ?» Et puis, il termine. « Et le Seigneur m'a délivré de toutes. » Amen. Le Seigneur m'a délivré de toutes. Et si Paul a souffert, s'il a accepté tout ça, c'était pour une seule chose. Parce qu'il savait en qui il avait mis sa foi. Il savait quelle était l'espérance de celui qui était en Jésus-Christ. Et il ne se plaint pas. Il constate. Il a souffert. Il constate. Mais il sait pourquoi. Et il n'a jamais été séparé de l'amour de Dieu. Dieu a continué à le conduire. Et finalement, Dieu l'a entièrement délivré. De toutes ces persécutions, le Seigneur l'a délivré. Alors ce matin, je vous invite juste à incliner vos têtes. Je ne sais pas quelle souffrance auquel tu fais face, mais nous avons un Dieu qui est capable de te délivrer de toutes tes souffrances. Si tu es dans ce lieu vraiment découragé, et si le Seigneur m'a mis à parler d'espoir, c'est parce que je sais que dans ce lieu, en cette fin d'année, des hommes et des femmes sont découragés. Vous avez perdu l'espérance. Donc je sais qu'il y en a. Si tu as perdu espoir, ce matin, le Seigneur te dit, c'est le temps de relever la tête. C'est le temps de relever la tête. Ce que tu espérais sur cette terre ne vient pas. Ce que tu désirais sur cette terre n'arrive pas. Mais j'ai une autre espérance pour toi. Ne te laisse pas abattre. Ne te laisse pas abattre ce matin. J'en ai pas fini. J'ai pas oublié les projets que j'ai formés sur ta vie. Mais saisis l'espérance qu'il y a en moi. Crois à cet héritage que j'ai acquis pour toi. Crois à ces paroles de Romains 8. Si je suis avec toi, qui sera contre toi? Ce matin, j'aimerais faire un appel pour ces personnes qui sont dans le désespoir. Je crois que Dieu veut vous délivrer ce matin. Je crois que Dieu veut insuffler en vous l'espérance. Je crois qu'il veut encore vous communiquer que tu es aimé de lui. Il t'aime. Il t'aime. Il t'aime. Arrête de te condamner toi-même, arrête de croire que tu es pas assez ci, pas assez ça, que tu ne mérites pas. Il t'aime et il ne va pas te lâcher.